La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Avec aujourd'hui les conseillers référendaires Alain Carillon
et Géraldine Métral.
Bonjour Alain. Avant de faire un focus sur un arrêt que nous décrypterons ensemble, nous commençons par évoquer l'actualité de la Chambre sociale avec deux décisions des 6 et 20 septembre 2023.
Commençons avec notre premier arrêt du 6 septembre 2023 qui porte sur le recours par l'employeur à un client mystère, dispositif lui permettant de missionner une personne, anonyme pour les salariés, afin de contrôler leur activité.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité de la preuve découlant de l'intervention d'un client mystère et énonce les conditions permettant à l'employeur de se prévaloir des résultats obtenus à cette occasion pour fonder une sanction disciplinaire.
Précisons toutefois qu'elle ne s'est pas prononcée in abstracto sur la loyauté de ce mode de preuve.
Sur l'exigence de loyauté dans l'administration de la preuve, nous vous renvoyons au podcast thématique numéro 16 portant sur le droit à la preuve et vous rappelons que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation examinera deux pourvois touchant à cette question lors d'une audience filmée le 24 novembre prochain.
Dans l'arrêt commenté, le dispositif du client mystère, tel qu'il avait été mis en place par l'employeur, a été déclaré licite et il n'était fait état d'aucune atteinte à un droit fondamental du salarié. L'intérêt de la décision est que la Chambre sociale pose des conditions pour que la preuve issue de ce dispositif soit licite.
Tout à fait. Précédemment, la Chambre commerciale avait été amenée à statuer sur le dispositif du client mystère en matière de concurrence déloyale. Dans un arrêt du 10 novembre 2012, elle avait déclaré irrecevable la preuve obtenue en faisant appel au service d'un tiers rémunéré, considérant que cette rétribution était de nature à faire douter de la neutralité de son comportement.
Mais la Chambre sociale a admis que l'employeur puisse recourir à un tiers rémunéré pour ses visites mystères.
Oui, la différence d'exigence s'explique par la nature de la relation de travail. La surveillance de l'activité du salarié résulte du lien de subordination et du pouvoir de direction de l'employeur qui peut mettre en place des dispositifs en rémunérant des salariés pour en surveiller et en contrôler d'autres. Il peut également recourir à des personnes extérieures.
En revanche, pour que le dispositif soit licite, l'employeur ne peut y avoir recours de manière clandestine. Il doit préalablement satisfaire à une obligation d'information à l'égard du comité social et économique, mais également à l'égard des salariés.
L'information des salariés peut intervenir sous forme individuelle ou collective, par voie d'affichage, accessible à tous. Or, dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation a admis la licéité du recours au dispositif de client mystère parce que l'employeur avait, préalablement à sa mise en œuvre, expressément informé les salariés par une note d'information figurant sur un panneau d'affichage accessible à tous, de cette méthode d'évaluation professionnelle et de la possibilité que les manquements éventuellement relevés à la suite d'une visite mystère donnent lieu à des sanctions.
On comprend bien que la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui n'a pas les mêmes exigences que la Chambre commerciale, se montre d'autant plus stricte dans l'appréciation de l'obligation d'information pesant sur l'employeur.
Le second arrêt de notre actualité a été rendu le 20 septembre 2023. Il apporte des précisions sur la notion de cessation d'activité comme motif économique de licenciement.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme que la cessation complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif de licenciement. La solution, initialement dégagée par la jurisprudence et consacrée par la loi Travail, dite loi El Khomri du 8 août 2016, est donc maintenue.
Tout à fait. Mais attention, cette cessation d'activité doit bien être totale et définitive. Et elle doit nécessairement entraîner la suppression de tous les postes de travail. En revanche, la Cour de cassation a déjà dit que, lorsque la cessation d'activité n'est que partielle, elle ne justifie pas, à elle seule, les licenciements qui en résultent. Il s'agit en effet d'une simple réorganisation de l'entreprise. Dans ce cas, pour justifier un ou plusieurs licenciements, cette réorganisation de l'entreprise doit être motivée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise.
Donc, si la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, et dès lors qu'il s'agit d'une cause autonome de licenciement, cela signifie qu'il n'y a pas lieu de rechercher par ailleurs s'il existe des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une menace sur la compétitivité de l'entreprise.
Oui, Alain, c'est tout à fait cela. Mais l'apport de l'arrêt que nous commentons est double. Son premier intérêt est de préciser que la cessation d'activité s'apprécie au niveau de l'entreprise. En effet, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive. La solution est identique à celle dégagée par le Conseil d'État en matière de salariés protégés. La réalité de la cessation d'activité s'apprécie donc au niveau de l'entreprise et non au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Autrement dit, le juge ne peut s'affranchir du périmètre de l'entreprise personne morale pour apprécier si elle a cessé toute activité.
Cela signifie que la simple poursuite d'exploitation de certains produits par une autre entreprise du groupe, en dehors de toute situation de transfert d'entreprise, ne caractérise pas une poursuite d'activité et ne fait pas obstacle à ce que la cessation d'activité soit considérée comme totale et définitive.
C'est cela.
Qu'en est-il, Géraldine, du second apport de notre arrêt ?
Il vient préciser que la cessation d'activité complète et définitive peut évidemment être effective au moment du licenciement, mais elle peut aussi ne pas l'être si le processus de cessation est irrémédiablement engagé lors du licenciement. Cela signifie que la poursuite d'une activité résiduelle n'a pas pour effet de priver le ou les licenciements prononcés de causes réelles et sérieuses, si cette poursuite d'activité est nécessaire à l'achèvement de l'exploitation des produits par l'entreprise. Cette solution s'inscrit dans la continuité d'un arrêt rendu le 26 septembre 2012, dans lequel la Cour de cassation avait admis qu'un licenciement prononcé en 2006 par la société ayant repris les actifs douteux du Crédit Lyonnais était justifié en dépit de la poursuite de l'activité, dès lors que celle-ci visait à permettre la liquidation des derniers actifs planifiés jusqu'en 2014. Il s'agit de reconnaître que le processus de cessation d'activité peut s'étaler dans le temps.
Donc, à partir du moment où un processus de fermeture de l'entreprise est inéluctablement engagé, la circonstance que les licenciements interviennent avant la fermeture effective ne rompt pas le lien entre les licenciements et la cessation complète et définitive d'activité qui constitue bien la cause des licenciements.
Oui, cette approche souple permet à l'employeur d'avoir une marge de manœuvre pour régler les démarches et les obligations propres à chaque volet ou à chaque étape de la fermeture de l'entreprise, mais aussi de tenir compte de la réalité temporelle d'échelonnement des licenciements en fonction des possibilités de reclassement individuel des salariés ou des autorisations administratives à demander s'agissant des salariés protégés. Elle permet également au juge du fond de disposer d'une certaine marge d'appréciation.
Enfin, il n'appartient pas au juge de rechercher le motif de la cessation d'activité présenté comme cause de licenciement économique.
En effet, comme nous l'avons déjà rappelé, c'est une cause autonome de licenciement. L'employeur a le droit de mettre un terme à son activité et cette décision relève de son pouvoir de direction et de la liberté d'entreprendre. L'employeur n'a pas à justifier des motifs qui l'ont déterminé à cesser son activité et les juges du fond n'ont pas à porter une appréciation ou à exercer un contrôle sur le choix fait par l'employeur entre les différentes solutions possibles.
Alors, le juge n'effectue aucun contrôle ?
Si, il contrôle que la cessation d'activité ne résulte pas d'une faute de l'employeur. Un comportement fautif de sa part, exclusif de bonne foi et excédant une simple erreur de gestion, peut en effet priver un licenciement économique de cause réelle et sérieuse. En revanche, la Cour de cassation a renoncé en 2021 à utiliser la notion de légèreté blâmable. Un comportement relevant d'une légèreté blâmable serait donc sans incidence sur l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement.
Et nous poursuivons la Sociale Le Mag avec notre décryptage qui porte sur le statut des lanceurs d'alerte. Un récent arrêt du 13 septembre dernier s'est prononcé sur les modalités d'application de l'article L1132-3-3 du Code du travail.
Mais Alain, nous avons déjà consacré une rubrique actualité de notre podcast du mois de mars 2023 aux lanceurs d'alerte. Pourquoi revenir sur cette question aujourd'hui ?
C'est vrai, Géraldine, mais cet arrêt, rendu en formation mixte de la Chambre sociale de la Cour de cassation, présente un intérêt particulier en ce qu'il apporte des précisions importantes sur les notions de bonne foi et de désintéressement prévues selon deux régimes distincts par les alinéas 1 et 2 de l'article L1132-3-3 du Code du travail.
Bien, commençons donc avec l'articulation entre les deux alinéas de ce texte.
Pour bien comprendre la problématique, il faut rappeler que l'article L1132-3-3 du Code du travail est le résultat complexe d'une succession de réformes législatives du statut des lanceurs d'alerte. Dans sa version applicable à l'espèce, c'est-à-dire issue de la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, cet article comporte deux alinéas que je simplifie ainsi. Alinéa 1. Aucune personne ne peut être licenciée pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Alinéa 2. Aucune personne ne peut être licenciée pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi numéro 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. L'alinéa 1 préexistait depuis une loi de 2013 sans être modifié et l'alinéa 2 a été ajouté par cette loi de 2016. Il en résulte de petites dissonances d'interprétation.
Pour schématiser encore, on peut dire que l'alinéa 1 est spécifique au salarié qui a connaissance de crimes ou de délits dans l'exercice de ses fonctions et que l'alinéa 2 renvoie au droit commun du lanceur d'alerte, salarié ou non, et à la révélation de faits qui peuvent être aussi des infractions, mais pas seulement.
Oui, c'est exactement cela. Mais voilà la dissonance. L'alinéa 1 évoque expressément la bonne foi. L'alinéa 2 renvoie à la loi de 2016 et plus précisément à son article 6, qui précise que le lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation d'un engagement international, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance.
Donc, l'alinéa 1 ne vise que l'exigence de bonne foi, alors que l'alinéa 2 vise la bonne foi et le caractère des intéressés.
Oui. Et le problème posé par le pourvoi est précisément celui-ci. Lorsqu'on est en présence d'une dénonciation par un salarié d'un crime ou d'un délit, le caractère désintéressé est-il exigé du salarié ou sa seule bonne foi suffit-elle ?
C'est dans le sens d'une indépendance des deux alinéas que la Chambre sociale a déjà statué par un arrêt du 15 février dernier en décidant que le respect de la procédure d'alerte graduée prévue par l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016, visée par le seul alinéa 2, ne s'imposait pas dans l'hypothèse de la dénonciation de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont le salarié aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire dans l'hypothèse de l'alinéa 1.
Oui, et cette solution est conforme à l'évolution législative. L'objectif de la loi Sapin 2 était de répondre à certaines critiques et d'améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Et celui de la récente loi de 2022 encore davantage. Il serait donc paradoxal d'interpréter le premier alinéa de l'article L1132-3-3 dans le sens de l'ajout d'une condition supplémentaire limitant le bénéfice de la protection du lanceur d'alerte. Rejoignant cette solution, l'arrêt du 13 septembre dernier, que nous décryptons, énonce que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions n'est pas soumis à l'exigence d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, mais seulement à celle de bonne foi. Cet arrêt rapproche ainsi la protection du salarié qui dénonce un crime ou un délit de celle dont bénéficient les salariés qui dénoncent des faits de harcèlement ou de discrimination. En effet, en matière de harcèlement moral et de discrimination, la bonne foi de celui qui dénonce de tels faits est définie en creux, c'est-à-dire en référence à l'absence de mauvaise foi, laquelle est définie comme la connaissance de la fausseté des faits dénoncés. C'est ce que vient de rappeler un arrêt rendu en formation plénière de chambre qui décide que le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Et la solution vaut pour la discrimination également.
Il faut par ailleurs signaler, même si ces dispositions n'étaient pas applicables dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 13 septembre 2023, que la référence au désintéressement a évolué dans la loi de 2022.
Ce critère du désintéressement, pour le moins flou, était source d'insécurité juridique. Entendu au sens large, il risquait en outre de priver certains lanceurs d'alerte d'une protection légitime. En effet, un salarié qui effectue un signalement hors dénonciation d'un crime ou d'un délit concernant son employeur avec lequel il se trouve en litige pour une autre raison, parfois indirectement liée à l'alerte, aurait pu être considéré comme intéressé. La loi du 21 mars 2022 a donc substitué au critère du désintéressement celui de l'absence de contrepartie financière, faisant ainsi disparaître toute prise en compte de la motivation du salarié. Elle rejoint en cela l'exigence contenue dans le préambule de la directive de l'Union européenne du 23 octobre 2019 qui énonce que les motifs amenant les auteurs de signalement à effectuer un signalement devraient être sans importance pour décider s'ils doivent recevoir une protection.
C'est la fin de notre podcast. Les arrêts peuvent être retrouvés sur le site de la Cour de cassation avec les numéros de pourvoi 22 13 783, 22 13 485 et 21 22 301, ainsi que, s'agissant de ces deux derniers arrêts, à la lettre de la Chambre sociale numéro 21 de septembre-octobre 2023. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans ce podcast sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci Alain.
À bientôt Géraldine.